que ve això tinc de
gerar. Digo de Radio France Internacional.
Gràcies, non, disso eco, si de.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Action du Monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI. Ce soir, avec vous, Xenia Jornoclé, de la rédaction ukrainienne. Pour voir si, concernant la guerre en Ukraine, on peut déjà en être à préparer la paix. Pour la rédaction en portugais, Catarina Falcao.
Bonne nuit à tous.
Vous êtes fan de football et vous allez donc nous parler de la Coupe d'Afrique des Nations. Et Asbel Lopez, de la rédaction en espagnol.
Hola, ¿qué tal?
Vous nous régalerez en nous parlant du ceviche qui est désormais inscrit à la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Avant cela, ce qui fait la une de l'actualité, c'est à Davos, en Suisse, la grande réunion annuelle du Forum économique mondial. Les grands de ce monde, comme on dit, discutent de l'avenir de l'humanité. Xenia, bien sûr, l'Ukraine est un des sujets principaux de ce forum à Davos.
Oui, Philippe, c'est vrai. L'Ukraine était, disons, au cœur de rencontres, aussi bien que les sujets de l'intelligence artificielle et les élections aux États-Unis. L'intérêt des Ukrainiens était porté surtout sur la question de soutien de l'Occident et les aides militaires. Les Ukrainiens ressentent une préoccupation et craignent que les alliés occidentaux pensent plutôt à geler le conflit que à la victoire de l'Ukraine. C'est peut-être le moment crucial dans le déroulé de cette guerre, quand la baisse du soutien peut tourner en catastrophe pour tout un peuple. À Davos, l'Ukraine était au centre de plusieurs événements. La grande conférence sur la paix la veille de l'ouverture du forum, puis les discours du président Zelensky, la réunion pour la paix, etc. Le dernier événement de cette édition du forum était le traditionnel petit déjeuner ukrainien organisé hier matin et qui a servi quelque part d'une conclusion logique de toutes ces rencontres. Il s'agit d'un événement traditionnel qui a lieu depuis 2005. Cette année, il s'est déroulé sous le titre Stand with Ukraine avec le point d'interrogation.
C'est-à-dire attendre avec l'Ukraine, faut-il attendre avec l'Ukraine? En tout cas, de nombreux dirigeants ont commenté hein, ce conflit.
Oui, il y avait présent le président de la Pologne, Andrzej Duda, le premier ministre de la Croatie, puis le ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni, de la Pologne, de la Norvège et le ministre de la Défense des Pays-Bas. En tout, plus de 80 pays des organisations internationales. Le président polonais était le premier à répondre aux questions sur le soutien occidental à l'Ukraine et je propose qu'on écoute un extrait.
And please remember this, Russia will not stop on Ukraine. Other countries in Eastern Europe.
Très clairement, il parle de la Russie et de l'Ukraine.
Oui, tout à fait. Il dit qu'il ne faut pas oublier que la Russie ne s'arrêtera pas à l'Ukraine. D'autres pays d'Europe de l'Est, du Caucase et d'Asie centrale pourraient être les prochaines victimes. Il est absolument clair que si la Russie gagne cette guerre, elle attaquera les pays suivants. C'est typique de l'impérialisme russe. La Russie attaquera encore et encore. L'Ukraine doit gagner cette guerre. Andrzej Duda a répété que seuls les Ukrainiens devraient décider de ces pourparlers de paix avec le pays agresseur et décider quand ces pourparlers auront lieu. Il est convaincu que seule la restitution de tous ces territoires occupés sera une victoire pour l'Ukraine, alors que les autres scénarios sont des victoires pour Moscou. Le point de vue du président polonais a été repris par le ministre britannique des Affaires étrangères, David Cameron, qui a rappelé la visite du premier ministre Rishi Sunak en Ukraine la semaine dernière.
Et quel message a-t-il délivré?
Il a assuré que la Grande-Bretagne aidera autant que nécessaire, et la visite du premier ministre à Kiev la semaine dernière l'a démontré, quand il a apporté un paquet d'aides d'une valeur de plus de 2,5 milliards de livres pour l'année prochaine. La Grande-Bretagne demande à ses collègues américains et européens d'apporter des aides similaires. Et puis le président letton, d'ailleurs, Edgars Rinkevich, a déclaré que son pays, bien que membre de l'OTAN, se prépare à la guerre. Il a déclaré que l'industrie de la défense devrait renforcer son potentiel pour deux raisons. Aider l'Ukraine et disposer de plus d'équipements militaires pour eux-mêmes, parce qu'il faut parfois plus de temps pour les acheter que pour les produire.
Et puis le ministre des Affaires étrangères ukrainien a évoqué la question des avoirs russes gelés en Europe. Est-ce que ce sera la solution pour compléter des aides à l'Ukraine?
Oui, le discours de Dmytro Kuleba hier matin a porté bien sur le transfert des avoirs russes gelés. La perspective de ce dernier semble ne plus effrayer le monde occidental. La question des avoirs russes et de leur utilisation a été soulevée dans plusieurs instances européennes et américaines, dont le Forum économique mondial. Cet argent sera très utile aux Ukrainiens et peut réduire la pression économique sur les portefeuilles de contribuables européens et américains. Par exemple, les avoirs russes gelés au Royaume-Uni, au Luxembourg et en Suisse suffiront à réparer les infrastructures endommagées en Ukraine. Pendant le petit déjeuner, les participants ont parlé aussi du courage des Ukrainiens, du soutien et de la menace russe. Et par exemple, Chrystia Freeland, ministre des Finances du Canada, qui est d'ailleurs les origines ukrainiennes, a déclaré que l'Ukraine ne devrait pas remercier ses partenaires pour leur aide, mais que le monde devrait plutôt remercier les forces armées ukrainiennes.
Alors, ces avoirs russes, on va donner un chiffre, hein, ça tourne autour de 300 millions de dollars, hein, c'est ça. Katharina, à Davos, il est question donc des grandes crises que le monde traverse. Il y a des discours, des paroles généreuses, des promesses, mais il y a aussi cette question qui se pose avec pertinence, c'est l'utilité de ce grand raout.
Exactement, Philippe. À la rédaction en portugais, nous avons interviewé l'économiste guinéen Carlos Lopes et il n'est pas très convaincu que Davos soit encore un marqueur fort de l'économie et de la politique mondiale.
Eu penso que o Fórum Económico Mundial tem perdido um pouco da sua influência. Sempre foi, digamos, um fórum onde o setor
Quelle est l'opinion de Carlos Lopes?
Il nous dit que Davos a toujours essayé d'avoir un rôle important au niveau des prises de décision mondiales, mais que sa place devient de moins en moins importante. Il observe aussi que la plupart des organisations internationales représentées à ces forums n'arrivent plus à gérer ou du moins à avoir un rôle de médiation dans toutes les crises globales. On pense aux Nations Unies, bien sûr. Par exemple, le secrétaire général de l'ONU, le portugais António Guterres, s'est déplacé à Davos pour, une fois de plus, insister sur le besoin de réforme au sein des Nations Unies. Donc, la capacité d'action est pratiquement au point mort. À ce sujet, Carlos Lopes nous parle même d'une érosion de l'influence de Davos. Pour lui, ça se mesure aussi par l'absence des leaders du Sud.
Alors, l'organisation de ce Forum économique mondial est financée par les entreprises, les multinationales. Et le fait d'y participer est vu comme une réussite dans le monde de la finance.
Bien sûr, tout à fait. Pour Carlos Lopes, les grandes règles de la mondialisation du commerce et de la fiscalité, mais là, sont actuellement remises en question, non seulement par la mondialisation, mais aussi par le changement climatique. On va l'entendre.
Nous sommes entrés dans un période où les grandes règles que ditaram a globalização, nomeadamente o sistema financeiro internacional, como era regulado.
Quelle est donc la solution, sa solution pour un monde qui change à chaque instant?
Il ne nous donne pas une solution, mais il fait son constat. Actuellement, quand il y a un problème de fiscalité, par exemple, il n'y a plus de concertation. Chaque acteur international travaille de son côté, comme le fait par exemple l'Union européenne. La même chose se passe concernant la régulation de l'intelligence artificielle. Les États-Unis créent leur propres règles. Et en réponse, la Chine élabore ses propres critères. Il dit que nous vivons un moment de démondialisation.
Et à propos de fiscalité, le ressort de Davos, un document insolite où 250 millionnaires et milliardaires ont demandé à être davantage taxé, Katharina, ce qui peut paraître surprenant.
Oui, et en fait, ça fait quelques années qu'un groupe de millionnaires, ce groupe-là, demande à payer encore plus d'impôts pour transformer la richesse privée en investissement pour toute la société. Parmi ceux qui demandent cette mesure figurent les héritières Abigail Disney et Valerie Rockefeller. Pour Carlos Lopes, ce mouvement est vraiment intéressant. Il prouve que parfois, certains agents économiques sont plus audacieux que les gouvernements, on va l'entendre.
É significativo de qualquer das formas porque é uma demonstração de como muitas vezes os protagonistas do setor corporativo, do setor privado.
Que vous a-t-il expliqué, Carlos Lopes?
Il explique que les gouvernements sont encore très attachés à l'investissement privé pour faire avancer l'économie et que ces ultra-riches ont compris les limites de cette croyance. Ils argumentent que leur richesse est tellement grande qu'ils ne savent plus quoi faire de leur argent si n'est que le partager et que confrontés aux problèmes et crises actuelles, toute cette richesse accumulée n'est plus justifiable. En même temps, beaucoup de rapports d'ONG sont sortis pendant Davos et Oxfam nous dit qu'il va falloir 229 années pour rattraper le fossé entre les plus riches et les plus pauvres, un écart qui s'élargit à chaque année.
Asbel Lopes, à ce Davos, il y a aussi un discours qui a provoqué un tollé, celui du président de l'Argentine, Javier Milei, l'autoproclamé anarcho-capitaliste, qui a défendu le capitalisme.
Eh oui, Milei a vraiment fait sensation. On pourrait dire en espagnol « se robó el show », c'est-à-dire en français, il a volé la vedette. À Davos, son discours ouvertement en faveur du capitalisme, mais aussi de l'Occident, est un fait rare, même rarissime.
Porque nunca debe olvidarse que el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor, que fracasó en todos los países que se intentó.
Quelle est la nature du discours de Javier Milei?
Le socialisme, dit-il, est un phénomène appauvrissant. Le socialisme a été un échec dans tous les pays qui l'ont essayé. C'est un échec dans le domaine économique et dans le domaine social. En plus, il est responsable de la mort d'une centaine de millions de personnes. Dans son discours à Davos, le président Milei a attaqué aussi l'État, source de bien des problèmes, selon lui, même de tous les problèmes.
Por suerte, somos cada vez más los que nos atrevemos a levantar la voz. No cedan al avance del Estado. El Estado no es la solución. El Estado es el.
No permettez pas l'avancement de l'État, la progression de l'État. L'État n'est pas la solution. Au contraire, l'État est le problème. Dans cette lutte contre l'État, vous pouvez compter désormais avec l'Argentine, a dit Milei. Dans l'Argentine d'aujourd'hui, celle de Milei, les applaudissements officiels reviennent à ceux qui créent de la richesse.
El capitalista, el empresario exitoso, es un benefactor social que, lejos de apropiarse de la riqueza ajena, contribuye al bienestar general.
Il pense que du bien des capitalistes.
Eh oui, le capitaliste, l'entrepreneur qui a du succès, sont des bienfaiteurs de la société. Au lieu d'essayer de s'approprier la richesse des autres, ils apportent au bien-être général de la société. En définitive, un entrepreneur qui a du succès, c'est un héros. Voilà quelques extraits du discours de Milei. Je rappelle au passage qu'il est au pouvoir depuis un peu plus d'un mois et ce discours en Suisse était sa première sortie sur la scène internationale.
Alors, sachant que l'Argentine a souffert d'une inflation spectaculaire de plus de 200% l'année dernière, Milei a dévalué, quand il est arrivé au pouvoir, le peso de plus de 50%. Il a mis fin à l'encadrement des prix, divisé par deux le nombre de ministères et lancé un programme d'économie agressive. Dans ces conditions, Asbel, quel retentissement a eu ce discours dans son pays, en Argentine?
Juste encore un mot, Philippe. Une phrase résume l'état d'esprit des Argentins aujourd'hui. Une phrase que vous retrouverez partout, même dans les t-shirts. No hay plata, il n'y a plus d'argent. Mais revenons à l'accueil du discours de Milei dans son pays. Nous avons posé la question à la journaliste Cecilia Diwan de la radio publique de l'Argentine, Radio Nacional. Elle s'occupe de l'actualité internationale.
Mira, desde el gran arco político argentino, las reacciones fueron desde calificar al discurso del presidente Javier Milei como.
Quel est le commentaire de notre consoeur?
Les détracteurs de Milei ont dit qu'il avait fait un flop, que c'était un discours anachronique, une honte, un discours misogyne, anti-justice sociale. Il a nié le changement climatique. Jorge Tayana, l'ex-ministre de Relations Extérieures du gouvernement de gauche de Cristina Fernández de Kirchner, a souligné pour sa part que Milei n'avait pas réclamé la souveraineté de l'Argentine sur les îles Malvines. Or, depuis 40 ans, tous les présidents de gauche ou de droite font cette réclamation lors des conférences internationales comme celle de Davos. Rappelons qu'en 1982, les deux pays sont entrés en guerre pendant un mois et demi à cause de ces différends. Le président argentin a fait savoir à la presse que le sujet avait été traité en tête-à-tête avec le chef de la diplomatie britannique, David Cameron.
Alors, les soutiens de Milei, bien sûr, ont été satisfaits par ce discours.
Mais plus, ils étaient fiers du discours de Milei, fiers que le président argentin ait renversé la table. Nicolas Mayoras, député du parti de Milei, La Libertad Avanza, s'est moqué de la rage des progressistes de droite et de gauche quand ils ont écouté le président. Mais le soutien le plus inattendu est venu de l'étranger, de Elon Musk. Le patron de X, anciennement Twitter, a écrit un tweet élogieux à l'encontre du dirigeant argentin. Bonne explication de raison qui explique pourquoi il y a des pays plus ou moins prospères, a écrit Musk sur le discours de Milei avec sa photo. Celui-ci a retweeté, bien sûr, le post d'Elon Musk. La presse argentine, pour sa part, a rappelé que Musk, l'homme le plus riche au monde, avait partagé l'intégralité du discours de Milei. Musk a peut-être trouvé son président héros.
Et voilà, tout ça s'est passé à Davos, en Suisse. Vous écoutez Accent du Monde sur RFI.
This is Radio France International.
De Paris, RFI, $100.
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Xenia Jornoclé de la rédaction ukrainienne. Tout d'abord, précisons, revenons sur le plan de soutien envisagé par l'Union européenne pour confisquer les avoirs russes.
Oui.
C'est combien, donc,
c'est
finalement
300 milliards.
Et pas 300 millions de dollars. Justement, cette guerre en Ukraine. Un dicton veut que la paix se prépare en temps de guerre. Est-ce le cas pour l'Ukraine? Des éléments de réponse à cette question avec vous, donc Xenia de la rédaction ukrainienne de RFI. Les questions d'un plan de paix de Volodymyr Zelensky, mais de quoi s'agit-il précisément?
Alors, pour le moment, l'Ukraine continue à insister sur le fait que cette paix est possible que sous ses propres conditions. Et le plan de paix de Zelensky, qu'on appelle également la formule de paix, est un plan de 10 points proposé par le président lors du sommet du G20 en novembre 2022. Les points de la formule comprennent le retrait de troupes russes, la restauration de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, la libération de tous les prisonniers, les réparations, l'énergie nucléaire et la sécurité alimentaire. Les alliés occidentaux de l'Ukraine soutiennent la formule de paix. Moscou, bien évidemment, rejette ces conditions.
En septembre 2022, le président ukrainien s'était adressé à l'Assemblée générale des Nations unies.
Oui, à l'époque, il faisait état de 5 conditions non négociables pour une formule de paix, y compris une punition équitable de la Russie pour ses crimes contre l'Ukraine, la protection de la vie par tous les moyens disponibles autorisés par la Charte des Nations unies, la restauration de la sécurité et l'intégrité territoriale, des garanties de sécurité de la part d'autres pays et la détermination de l'Ukraine à continuer à se défendre elle-même. Le président Zelensky a noté que la formule de paix ukrainienne pourrait devenir une base universelle pour mettre fin à d'autres conflits militaires sur planète et surmonter les problèmes mondiaux. Je vous propose d'écouter ce qu'il a dit il y a quelques jours pendant son allocution aux Ukrainiens.
Зараз представлені більше 80 держав та міжнародних організацій, не тільки наші звичні партнери.
Aidez-nous à comprendre.
Alors là, il dit qu'à Davos, il y a plus de 80 pays et organisations internationales qui sont désormais représentés pendant les discussions. Non seulement les partenaires habituels en Europe et en Amérique du Nord, mais aussi des pays d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie et de l'Océanie. Les initiatives ukrainiennes deviennent progressivement, selon Zelensky, des initiatives mondiales. L'Ukraine dispose d'un potentiel suffisant pour franchir ce cap difficile de la guerre et le potentiel d'unir le monde.
Alors cette formule de paix ukrainienne a été discutée lors de plusieurs réunions internationales auxquelles la Russie n'a jamais été invité.
Oui, tout à fait. Il a eu la première réunion à Copenhague en juin 2023. La deuxième, c'était l'été dernier à Jeddah, en Arabie Saoudite. Et puis la troisième réunion, c'était à Malte en octobre, entre 66 représentants du pays occidentaux et du Sud. Ils ont adopté un document confirmant leur intention de convoquer un sommet mondial pour étudier les dispositions de la formule de paix ukrainienne.
Mais alors justement, cette formule, qu'est-ce qu'elle pourrait être ?
Alors, ce sont des propositions que l'Ukraine a divisées en 10 points, donc sécurité radioactive nucléaire, alimentaire, énergétique, libération de tous les prisonniers et déportés, y compris les enfants et Ukrainiens enlevés, mise en œuvre de la Charte des Nations Unies et restauration de l'intégrité territoriale de l'Ukraine et de l'ordre mondial. Puis il y a aussi le retrait des troupes russes et la cessation d'hostilités, le retour de la justice et la lutte contre l'écocide. En pratique, les pays sont libres de joindre les propositions en tant que garants. Et c'est au pays de choisir lesquels de 10 paragraphes les intéressent le plus.
Alors, est-ce qu'il y a eu des avancées à la faveur du forum de Davos dont nous parlions voilà quelques instants?
Oui, comme on a pu déjà entendre dans le discours de Zelensky, des hauts fonctionnaires de plus de 80 pays et organisations internationales ont discuté de la formule ukrainienne le week-end dernier. Le ministre suisse des Affaires étrangères a déclaré que les participants était parvenu à clarifier certaines questions. Toutefois, l'Ukraine et la Russie ont déjà fait savoir qu'elles n'étaient pas prêtes à faire des concessions territoriales. Puis le nombre de pays et d'organisations participants a augmenté de 15 par rapport à la réunion précédente à Malte, ce qui témoigne de l'intérêt croissant que suscite l'Ukraine dans le monde. C'est le chef du cabinet du président ukrainien Andriy Yermak qui a expliqué très bien pendant sa réunion qu'avant à Malte, il y avait 66 participants, tandis qu'à la réunion actuelle à Davos, il y en avait 81. Et je propose de l'écouter.
In Malta, we discussed the first 5 points of the peaceful formula, was where nuclear security, food and energy security.
C'est donc le bras droit de Volodymyr Zelensky qui s'exprime. Hein.
Oui, tout à fait. C'est la personne qui est toujours présente à l'extérieur, qui fait toute la communication à l'extérieur de l'Ukraine. Et là, il dit bien qu'à Malte, l'Ukraine avait discuté des 5 premiers points de la formule de paix. Et là, désormais, il faut avancer sur les autres points, comme le retrait des troupes russes, le rétablissement de la justice, la sécurité environnementale, la prévention de la guerre et la confirmation de la fin de la guerre. Les participants ne se sont pas encore mis d'accord, mais certains pays estiment qu'une réunion au niveau de de dirigeants, comme l'espère l'Ukraine, serait prématurée, tandis que d'autres veulent engager immédiatement le dialogue avec la Russie. Et selon Yermak, le droit international et l'intégrité territoriale de l'Ukraine ne sont pas rétablis. N'importe quel agresseur, où il se trouve dans le monde, pourrait demain s'emparer d'une partie de n'importe quel pays et organiser des fausses élections.
J'ajoute que la Suisse accueillera une conférence de paix sur l'Ukraine, mais la date n'est pas encore connue. C'était Xenia Jean-Leclé de la rédaction ukrainienne de RFI. Tout autre chose à présent avec du football. En Côte d'Ivoire, vous le savez, la Coupe d'Afrique des Nations 2024 bat son plein. Cela se passe plutôt bien pour les équipes lusophones, Catania Falcao.
Oui, la plupart des équipes lusophones sont au top. L'Angola, le Mozambique, le Cap-Vert et Guinée-Bissau sont en Côte d'Ivoire et même si au départ les attentes étaient relativement modestes, ces équipes sont en train de surprendre. La plupart d'entre elles sont tombées dans des groupes difficiles avec des équipes très importantes comme la Côte d'Ivoire, pays hôte ce tournoi, mais aussi l'Égypte, l'Algérie ou le Nigeria. Mais elles n'ont pas déçu leurs supporters. Les seules défaites des lusophones jusqu'à présent, c'est la Guinée-Bissau, qui les a connus. Déjà lors du match d'ouverture de la CAN contre les Côte d'Ivoire, les Guinéens ont perdu 2-0. Et hier, contre la Guinée équatoriale, un score pas super. Ils ont perdu 4-2.
Alors, vous nous parlez de défaite, mais il faut aussi rêver de gloire.
Oui, bien sûr. Mais le suspense est aussi quelque chose d'important dans la vie, Philippe. Moi, comme certaines équipes nationales, moi, je cache mon jeu. Écoutons le joueur guinéen Alpha Smith, le seul qui a accepté de parler avec notre envoyé spécial là-bas, Marc Martins, à Abidjan.
Mas pronto, isso é futebol, né? Tens que saber perder, tens que saber lidar com esses momentos, porque a vida não acabou aqui, né?
Confidence de joueur.
Ouais, voilà. Il nous dit que les défaites font aussi partie du foot. Hein. On ne va rien se cacher. On voit qu'il est un peu triste. Même s'ils sont déjà éliminés, ils vont encore jouer un dernier match. Alpha Smith nous dit que la vie continue.
Et il y a d'autres moments qui ont fait vibrer, Katharina ?
Oui. Le Cap-Vert a une incroyable victoire face au Ghana, 2-1. Cette victoire des Récans Bleus, aux Tuberões Azuis, comme on les appelle, a été très célébrée. Et les Mozambicains ont fait un match nul contre l'Égypte, une équipe très importante.
Alors un mot du derby qui vient de se dérouler entre le Cap-Vert et le Mozambique. Alors pas derby géographique, hein, parce qu'il y a de la distance entre les deux pays, mais parce que ce sont des pays lusophones.
Un derby lusophone. Ouais, mais vous savez, c'est compliqué un match comme ça. C'est toujours difficile pour un journaliste qui tient avant tout à sa neutralité. Mais je vais vous raconter un petit peu. Le Cap-Vert, en fait, a gagné 3-0 contre le Mozambique. Il vient de gagner. Le match vient de se finir et le Cap-Vert, avec 2 victoires, est qualifié pour les 8e de la CAN. Les buts ont été marqués par Bébé, Ryan Mensch et Kevin Pina. Celui de Bébé s'était tiré à plus de 40 mètres, un vrai bijou, selon les spécialistes, bien sûr. Bébé est parti un peu plus tôt parce qu'il s'était légèrement touché dans un genou. Bébé joue actuellement au Rayo Vallecano, en Espagne, mais il a joué 4 ans au Manchester United. Pour le Mozambique, si jamais il gagne le prochain match contre le Ghana, c'est encore possible de se qualifier. Rien n'est encore perdu.
Parlons maintenant du parcours de l'équipe d'Angola.
L'Angola a fait match nul contre l'Algérie lundi. Un très bon résultat. Non seulement parce que Angola a gagné un point, mais surtout parce que son adversaire, l'Algérie, a un parcours très intéressant à la CAN avec 2 victoires, un 99 et un 2019. Les Algériens ont ouvert le score et pendant la première mi-temps, ils ont mis les Angolais à bout de souffle jusqu'à l'entrée de l'attaquant angolais Mabouloulou. Pendant la deuxième partie, les Algériens se sont fait plus discrets sur le terrain et aux 66 minutes, Mabouloulou a transformé un penalty. Voilà le tant espéré goal.
Je sais que la nation angolaine, les adeptes sont avec moi et pratiquement, je tinha que cumprir, né, que é fazer gols. Je sais que tout le monde estava à espera que o Mabouloulou marcasse. Graças a Deus, consegui marcar o gol, né? Tive uma máxima concentração et consegui marcar o gol. Está de parabéns à la seleção nacional.
Alors, Mabouloulou.
Voilà. L'héros angolais. Voilà, c'est pas Elon Musk ni Milay, mais voilà, c'est l'héros angolais. Il dit qu'il a senti tout son pays derrière lui et que l'Angola est prête pour le prochain défi, la Mauritanie, demain. Voilà, j'invite nos auditeurs
ben
à
oui,
accompagner ce match incroyable.
La CAN est à suivre sur RFI en intégralité, en direct, si
et
vous nous écoutez
langues, hein.
À Paris et en Afrique. Katharina Falcao, on l'a compris, fan de football, et notamment à l'occasion de cette CAN. Comme en France, c'est bientôt l'heure de dîner, à bientôt 19h, parlons gastronomie et plus particulièrement de gastronomie sud-américaine. Avec vous, Asbel Lopez de la rédaction en espagnol. Alors, on ne le sait pas forcément, mais le ceviche du Pérou vient d'être inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, comme l'a été la baguette française. Alors, ce plat fait avec du poisson cru est très apprécié des Péruviens et ailleurs dans le monde, sur ma table par exemple. Au demeurant, pourquoi est-ce que l'UNESCO a choisi d'honorer le ceviche ?
Et d'abord, Philippe, précisons qu'on peut compter les ingrédients du ceviche sur les doigts d'une main. Le poisson cru est coupé, le citron vert, la sauce leche de tigre, lait du tigre, les patates douces et le maïs blanc. L'UNESCO a mis en évidence l'importance des pratiques et des significations associées à la préparation et à la consommation de ce plat. Cette pratique culturelle est liée au développement durable car elle met en valeur la pêche artisanale et la production durable du citron, entre autres. L'UNESCO a aussi reconnu dans le ceviche une expression représentative de la cuisine traditionnelle péruvienne, du partage et de la cohésion sociale. Nous avons interviewé Carlos Enrique Díaz Villanueva, représentant permanent du Pérou au siège de l'UNESCO à Paris. Sur ce dernier point, en particulier, il nous a dit ceci.
Un des éléments pour lesquels nous avons été félicités, qui est le critère 4, est que s'est démontré que cela a été partie d'un processus participatif.
J'ai compris qu'il soulignait le caractère populaire du ceviche.
Exactement, il souligne le caractère populaire du ceviche parce qu'au Pérou, chaque Pérouvien est porteur de cette tradition. Bien évidemment, les pêcheurs artisanaux et les cuisiniers locaux, mais aussi les consommateurs. Au Pérou, vous pouvez manger le ceviche dans une modeste cevicheria à la plage ou dans un hôtel 5 étoiles à Lima, la capitale. C'est un plat populaire et une entrée raffinée. Et c'est aussi un plat très ancien, selon ce que nous a raconté aussi Carlos Enrique Díaz Villanueva.
Hay referencias históricas directas al ceviche, como se conoce, o ya con el nombre ya con el nombre ya determinado como ceviche.
Oui, ça a environ un siècle et demi.
Oui, exactement. La première référence directe au ceviche, tel que nous le connaissons maintenant, remonte au 19e siècle. C'est au début de l'indépendance du Pérou, de l'Empire espagnol, avant la République. Cela étant dit, des références concrètes à l'usage du poisson cru avec du sel et du citron sont plus anciennes. Elles remontent à la culture indigène moche vers l'année 100 après le Christ.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour réaliser et déguster un bon ceviche?
Et j'ai posé la question justement à un chef péruvien ici à Paris. C'est Carlos Macavilca de la cevicheria Bonbon, bueno bueno en espagnol.
Para mí el ceviche es el equilibrio de la sal y el limón. Entonces, tengo que buscar l'équilibre de la sal et limon en la cual.
Alors, quelle est sa recette?
Donc, vous avez compris, c'est le bon dosage entre le citron et le sel. L'équilibre entre les deux, pas trop d'un côté ni de l'autre. Bien sûr, le point de départ, c'est un poisson frais, dont l'idéal, pas plus de 3 heures entre la mer et votre assiette. En France, le piment est particulièrement important pour ménager les palais des Français. Et Carlos Macavilca m'expliquait qu'il demande à ses clients ici à Paris s'ils aiment le piment. Surtout, à quel degré des piquants sont-ils habitués? Doux, moyen, piquant, très piquant. Et soulignons au passage que le ceviche peut être le plat emblématique de la gastronomie péruvienne, mais le Pérou est devenu en quelques années la puissance gastronomique du continent sud-américain.
Alors c'est vrai qu'à Paris, on trouve plusieurs restaurants péruviens, pour tous les budgets en plus. Alors comment expliquer le succès de la cuisine ici en France, de cette cuisine ici en France?
Mais écoutez, honneur à la gastronomie péruvienne, le Pérou a une large côte sur le Pacifique, mais aussi les montagnes des Andes. C'est un pays avec une grande variété de paysages, ainsi que des cultures autochtones. Nous avons mentionné les indigènes moche, mais il y a aussi bien sûr l'Empire Inca. Le chef Carlos Macavilca souligne aussi des autres influences plus récentes.
El hecho de que tenemos bastantes influencias, digamos, de África, tenemos influencia china aussi, japonesa.
Quelles sont ces influences?
Donc, c'est le continent africain, l'Espagne, la Chine et le Japon. Et selon la tradition, les Espagnols marinaient le poisson toute une nuit par crainte des bactéries, tandis que les Japonais se limitaient à quelques minutes. C'est cette dernière pratique qui s'est imposé au fil des ans.
Est-ce qu'il y a un poisson particulier qui s'adapte plus que les autres?
Ici, la dorade.
La dorade. Ouais. La dorade qui doit avoir moins de 3 heures hein, entre la côte et Paris, ça fait quand même un petit peu de... En tout cas, vous avez mis l'eau à la bouche, Asbel Lopez, de la rédaction en espagnol de Radio France Internationale. C'était Accent du Monde, réalisé par Jean-Philippe Thiopé.